Il existe un certain nombre de phrases qui sont particulièrement pénibles à prononcer au point où on croirait qu'elles nous écorchent la bouche. Elles font partie de la bonne éducation et on essaye de les inculquer à nos enfants, mais ce n'est pas facile, surtout que les adultes ont eux aussi des difficultés à les dire. Parmi ces phrases, la plus douloureuse est peut-être bien « je t'ai offensé et je mérite d'être puni ». Or, on la trouve dans le dernier chapitre de la prophétie de Michée que je continue à lire. « J'ai péché contre l'Éternel, je supporterai donc le poids de sa colère. » Verset 9. Michée s'identifie corps et âme à son peuple dans son péché et sa prière est celle du pénitent qui se soumet au châtiment mérité. Le prophète Daniel aussi avait confessé les fautes de ses compatriotes comme s'il les avait lui-même commises. Dans sa prière de contrition, il dit « Nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. Seigneur, la honte couvre notre visage, celui de nos rois, de nos chefs et de nos ancêtres. » Parce que nous avons péché contre toi. Si Daniel et Michée ont ainsi confessé le péché de leur peuple comme le leur, nous devrions peut-être suivre leur exemple. À chacun de voir. Par contre, nous sommes exhortés à prier pour ceux qui nous gouvernent. L'apôtre Paul écrit que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Je continue le texte de Michée. « J'ai péché contre l'Éternel. Je supporterai donc le poids de sa colère jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il me fera droit et me fera sortir à la lumière et je contemplerai son œuvre qui établira la justice. » Verset 9. Quand le jugement aura accompli son objectif, l'Éternel défendra la cause de son peuple contre ses ennemis. L'empire païen, exécutrice du jugement de Dieu, n'a pas voulu comprendre qu'il n'était qu'un instrument dans les mains de Dieu et il a outrepassé sa responsabilité. Que ce soit les Assyriens ou les Babyloniens, ils ont voulu détruire Israël, violant ainsi son droit d'exister et blessant son Dieu, qui va devoir prendre sa défense. En délivrant son peuple de l'exil, en le rétablissant dans son pays, et en punissant ses ennemis, l'Éternel lui rend justice dans le sens qu'il se montre fidèle à son alliance avec ses ancêtres. La justice de Dieu est sa bonté, sa mansuétude envers ceux qui forment son peuple. On retrouve ce même sens du mot « justice » dans les paroles de l'apôtre Jean qui dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, c'est-à-dire bon et miséricordieux, et par conséquent il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Je continue le texte. « Alors mon ennemi en sera le témoin et sera couverte de honte, elle qui me disait « Où donc est l'Éternel ton Dieu ?» Et je la verrai de mes yeux être foulée aux pieds comme la boue des rues. » Verset 10. Tout comme Jérusalem précédemment, l'ennemi est personnifié. Il s'agit de l'Assyrie qui se moquait d'Israël en disant « Où donc est l'Éternel ton Dieu ?» Les Assyriens attribuaient toujours leur succès militaire à l'assistance et à la supériorité de leur Dieu sur ceux des nations conquises. C'est ainsi qu'à l'entrée du nouveau palais construit par le roi assyrien Sargon II, on peut lire l'inscription suivante. « Les rois Assur, Nébo et Merodach m'ont conféré la royauté sur les nations par la grâce et la puissance des grands dieux mes maîtres. J'ai lancé mes armes par ma force, j'ai vaincu mes ennemis. » Fin de citation. Il est vrai que les Assyriens mirent fin au royaume des 10 tribus d'Israël du Nord et envahirent Juda. Cependant, c'est oublier que l'Éternel protège son peuple. Dans une prière d'intercession, le psalmiste écrit « Pourquoi les nations diraient-elles ? Où est leur Dieu ? Montre à ces païens sous nos yeux que tu demandes compte du meurtre de tes serviteurs. » L'Éternel déploya sa puissance et montra qu'il a le pouvoir de délivrer. L'Assyrie fut humiliée et foulée aux pieds comme la boue des rues, une image qu'utilise également le prophète Ésaïe. C'est ce qui arriva sous le règne du roi Ézéchias. Alors que Jérusalem était encerclée par les Assyriens, l'ange de l'Éternel sortit et fit périr 185 000 hommes de guerre en une seule nuit. Je continue le texte. « Voici venir le jour où l'on rebâtira les murs de votre ville. » Et voici ce jour-là, on repoussera tes frontières. Verset 11. Ce petit verset est extrêmement dense et riche en signification. Michée voit d'abord Jérusalem détruite, qu'il compare à une vigne dont les clôtures auraient été arrachées. Cette image de désolation correspond bien à l'annonce de sa destruction par les Babyloniens qu'a faite le prophète Ésaïe. Je lis le texte. « Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée, je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. J'en ferai une friche, nul ne la taillera, nul ne la sarclera, les ronces, les épines y croîtront librement, et j'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elle. Or, c'est la nation d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. » Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait d'eux la droiture, et ce n'est qu'injustice. Il attendait d'eux la justice, et ce sont des cris de détresse. Ensuite, Michée s'adresse à Jérusalem en ruine, comme si elle était une personne, et lui annonce deux faits marquants. Elle sera reconstruite, et son territoire sera élargi. A priori, on pourrait penser que la restauration de la ville sainte correspond au retour de l'exil babylonien quand le roi perse Cyrus autorisa les Juifs à retourner dans leur pays et à rebâtir leur capitale. Cette compréhension du texte peut effectivement être considérée comme une première interprétation à moyen terme de ce passage. Cependant, et comme c'est souvent le cas chez les prophètes de l'Éternel, leurs visions ont plusieurs applications. Comme Michée dit aussi « On repoussera tes frontières », tout porte à croire que le prophète nous projette ici à la fin des temps, au tout début du règne du Messie, quand Jérusalem sera reconstruite une nouvelle fois. En fait, la ville sainte a été ravagée et rebâtie plusieurs fois au cours de son histoire. Au retour d'exil, après sa destruction par les Romains, et donc avec faste et gloire au début du millénium. Cependant, quand Jérusalem sera occupée par le Messie, elle ne comportera plus de murailles d'enceinte protectrice, parce qu'une paix universelle et durable régnera dans le monde entier. Un autre prophète écrit « Cours, parle à ce jeune homme » et dit « Jérusalem demeurera sans murailles, tant il y aura d'hommes et de bêtes au milieu d'elle, et je ferai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu qui l'entourera, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Quand Michée dit « Ce jour-là on repoussera tes frontières », cette extension concerne le territoire originel d'Israël que l'Éternel avait donné aux descendants d'Abraham. Cet agrandissement sera rendu nécessaire afin d'accommoder tous les peuples d'origine païenne qui se joindront au petit reste de Juifs rescapés. Ensemble, ils constitueront le nouveau peuple de Dieu, celui qui entrera dans le millénium. En réalité, les frontières du royaume messianique s'étendront jusqu'aux extrémités de la terre. Je lis un verset. « Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. » Il m'a dit. « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. » Non seulement la nation d'Israël n'aura plus de limites géographiques, mais les spécificités juives contenues dans la loi de Moïse seront également abolies. En effet, à l'origine, L'Éternel fit sortir le peuple hébreu d'Égypte et lui donna un territoire limité à l'intérieur de la Palestine, ainsi que la loi qui le distinguait de tous les autres peuples avec lesquels il ne devait pas se mélanger. Mais depuis la venue du Christ et sa mort sur la croix pour tous les hommes, quelles que soient leurs origines, il n'y a plus ce mur de séparation entre les descendants de Jacob et les païens. Cette division ayant été annulée, juifs et non-juifs qui croient en Jésus sont réconciliés et constituent un seul et même peuple qui appartient à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul explique clairement dans son épître aux Éphésiens. Je le cite. « C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Je continue maintenant le texte de Michée. « En ce jour-là, des gens viendront vers toi, de la Syrie jusqu'à l'Égypte, et de l'Égypte jusqu'au fleuve, l'Euphrate, et d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre. » Verset 12. Ici encore, cette prophétie concerne la fin des temps et le royaume du millénium. Rétabli, Jérusalem devient pour tous les peuples un pôle d'attraction. Michée embrasse du regard la restauration d'Israël et la conversion des païens au Messie. Non seulement tous les Juifs rentrent chez eux de la diaspora, mais les peuples païens aussi affluent en masse en direction de Jérusalem. Précédemment dans sa prophétie, Michée a déjà écrit « Des nations nombreuses viendront et se diront les unes aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers, car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Parmi les nations païennes venant se joindre à Israël, Michée mentionne les deux qui de son temps étaient les plus puissantes et les plus dangereuses, la Syrie et l'Égypte. Ésaïe, contemporain de Michée, les cite également. Je lis le passage. « En ce jour-là, il y aura dans le pays d'Égypte 5 villes où l'on parlera la langue des Hébreux et où l'on prêtera serment par l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. On appellera l'une d'elles la ville du soleil. En ce jour-là, l'Éternel aura un autel au milieu de l'Égypte et une stèle sera dressée en l'honneur du Seigneur sur sa frontière. Ils serviront de signes et de témoins pour l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dans le pays d'Égypte. L'Éternel se fera connaître au pays de l'Égypte, et ce jour-là, les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils lui rendront un culte avec des sacrifices et des offrandes, et ils feront des vœux à l'Éternel et s'en acquitteront. En ce jour-là, il y aura une route frayée, allant d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. L'Égypte et l'Assyrie rendront leur culte ensemble. En ce jour-là, Israël sera le 3e avec l'Égypte et l'Assyrie. Et pour la terre entière, cela sera une bénédiction. Et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, les bénira, disant, Béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit la Syrie, mon œuvre, et Israël qui m'appartient. En compagnie des Israélites, des peuples nombreux viendront de tous les horizons, de tous les points, de tous les horizons du nord et du sud, de l'Orient et de l'Occident, d'une montagne à l'autre et d'une mer à l'autre, c'est-à-dire du monde entier. Concernant le règne du Messie, un prophète et le psalmiste écrivent respectivement « Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples. Sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. Qu'il règne d'une mer à l'autre depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'aux confins du monde. » Cependant, avant que ne se réalise cette promesse idyllique, il va s'écouler plusieurs millénaires et le peuple élu devra passer par la fournaise du jugement, en réalité plusieurs. La révolte d'Israël contre son Dieu va entraîner l'application des sanctions prévues par la loi. En effet, dans le traité d'alliance entre l'Éternel, le suzerain, et les Hébreux, son vassal, en cas de rébellion, Dieu dit « Je vous disperserai parmi les nations païennes » et je vous poursuivrai avec l'épée. Votre pays sera dévasté et vos villes deviendront des monceaux de ruines. La gloire et l'avenir de Jérusalem et d'Israël ont beau être assurés, le jugement de Juda n'en est pas moins irrévocable, ce que tous les prophètes de l'Éternel ont souvent répété. Je continue le texte de Michée. Le reste de la terre deviendra un désert à cause de ses habitants. Ce sera le salaire de ses agissements. Verset 13. Le reste de la terre est constitué par ce qui reste quand on enlève Israël. Ce sont donc les nations du monde. Michée rappelle ici que juste avant l'instauration du royaume du millénium, Dieu déversera sa colère sur l'humanité entière parce qu'elle l'a rejetée et a choisi de suivre l'Antichrist. Il s'agit des terribles jugements décrits dans le livre de l'Apocalypse. Je continue le texte. « Éternel, paie ton peuple sous ta houlette. C'est le troupeau qui t'appartient. Il habite à l'écart, dans les fourrés au milieu du Carmel. Qu'il puisse paître dans les prés du Bazan et du mont Galaad, comme au jour d'autrefois. » Verset 14. Les promesses que l'Éternel a faites à Israël inspirent à Michée une prière sublime dans laquelle il demande leur accomplissement. Il supplie le berger d'Israël de diriger son peuple et de lui trouver des pâturages, symboles de paix et de prospérité. C'est un nouvel exode où l'Éternel conduira son peuple tel un berger son troupeau, comme lorsqu'il l'avait conduit hors d'Égypte. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est souvent décrit comme berger et Israël comme le troupeau qui lui appartient. Le psalmiste écrit « Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le, il t'appartient, sois son berger et prends soin de lui pour toujours. » Et David écrit « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi. » Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Les pâturages cités par Michée étaient extraordinairement fertiles. Carmel signifie campagne fertile et désigne une chaîne de montagnes longue de 25 km, culminant à 530 mètres d'altitude. Elle s'avance en promontoire dans la mer Méditerranée et surplombe la plaine de Megiddo. Les prophètes Élie et Élisée y avait habité au siècle précédent. Le Bazan est une région fertile au nord-est du Jourdain, réputée pour ses troupeaux. Galaad est une contrée également située à l'est du Jourdain et qui, comme le Bazan, avait déjà appartenu à Israël au temps de David et de Salomon et plus brièvement sous Jéroboam II, roi d'Israël Nord. C'est là que les tribus de Ruben, de Gad et une moitié de la tribu de Manassé s'étaient installées. toutes ces régions fertiles furent conquises par les Assyriens. Michée dit aussi que le troupeau de l'Éternel habite à l'écart dans les fourrés. C'est une référence au fait qu'Israël était séparé de toutes les autres nations, d'une part à cause de sa position géographique, puisqu'il était coincé entre plusieurs masses d'eau, un fleuve, des chaînes de montagnes et le désert, et d'autre part à cause de ses institutions religieuses très différentes des autres nations. Balaam, le prophète de malheur qui avait été embauché pour maudire Israël, a très bien perçu sa spécificité quand il a dit « Voici, je le contemple du sommet des rochers et du haut des collines, je le regarde, je le vois, c'est un peuple qui demeure à l'écart, il ne se considère pas semblable aux autres peuples. » À son origine, Israël avait été appelé à être saint, c'est-à-dire mis à part pour l'Éternel, et ce n'est que lorsqu'il a fait son devoir qu'il fut véritablement prospère. Quand Michée demande à ce qu'Israël soit béni comme au jour d'autrefois, il fait référence à l'apogée du peuple élu sous les règnes de David et de Salomon. Mais ces jours sont passés et ne reviendront que sous la houlette du Messie à la fin des temps.